Philosophie première, la personne humaine, le 14 10 1998, par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard.
Plusieurs questions. C'est évident que le dialogue entre Aristote et Platon est un dialogue extrêmement important. Il a de la grandeur. En elle-même. Donc, alors, vous voyez, premier niveau de connaissance, qui consiste à la distinction de l'être réel et de l'être apparent, n'est pas pré-philosophique. C'est le jugement critique du philosophe. Le dernier, c'est pour ça qu'Aristote dit dans le De Anima que la plupart des philosophes n'ont pas fait cette distinction de ce qui apparaît, qui est d'ordre imaginatif, et de l'ordre réel. Et ça, c'est vrai. C'est que nous restons tellement facilement dans l'ordre imaginatif. Mais qu'est-ce qui peut dire ça? Seul le philosophe. Seul la critique. Et la critique, pour le philosophe, provient du fait que la philosophie est sageuse. C'est la sagesse qui peut discerner ce qui est et ce qui est imaginatif. En définitive, en dernier lieu. Mais elle le distingue très vite, puisque dès qu'elle précise que ce que regarde le philosophe, la philosophie première, ce qui est, en tant qu'il est, le tuon et on. Tout de suite, on précise le tuon et on de l'imaginaire, du possible. Oui, c'est une distinction très fondamentale, mais quand je dis très fondamentale, ça veut dire qu'elle est toujours là. Ce qui est fondamental est toujours présent. On ne l'explicite pas tout le temps, mais elle est toujours présente. Et au fond, en définitive, je fais de la critique pour discerner le tuon, ce qui est, en tant qu'il est, de l'imaginaire. C'est le discernement ultime, dernier. Donc vous voyez, fondamental au sens philosophique, au sens critique, c'est-à-dire ce qui est tout le temps présent. Ma critique est co-extensible à ma philosophie première. C'est pour ça qu'Aristote n'en fait pas une science particulière, une partie de la philosophie particulière. C'est depuis qu'on est obligé et qu'on a fait de fait une critique comme une partie de la philosophie, mais en réalité elle est coextensible. Robert, lors de votre dernier cours, vous avez éreinté la philosophie de Platon. Non, j'ai cherché la vérité, c'est pas la même chose. Dire que tout l'édifice de Platon repose sur les idéums, ce n'est pas éreinter Platon. C'est essayer de le comprendre. Sur quoi repose la philosophie de Platon? Vous savez, j'ai enseigné 4 ans la philosophie de Platon à l'université de Fribourg. Donc je l'ai lu quand même plusieurs fois. Et chaque fois, je suis très séduit. J'aime beaucoup Platon, mais il est plus artiste que philosophe. Chaque dialogue de Platon est un tout, d'une certaine manière. Et si j'avais eu le temps, j'aurais écrit un livre sur Platon pour montrer que toute la philosophie de Platon, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est l'âme. L'âme spirituelle. Et ça, c'est très important. Voir quelle est. Qu'est-ce qui conduit Platon? Non, éreinté, non. Je considère que Platon est un très grand philosophe. Mais il y a un point, dès le point de départ, on aurait été à la place de Platon, peut-être qu'on aurait fait exactement la même chose. Platon dit ici cherche Socrate. Sauf Aristote, qui n'a pas connu directement Socrate, dit qu'il est plus fidèle à Socrate que Platon. Et on comprend très bien pourquoi. Parce que Socrate avait compris qu'il fallait dépasser le point de vue politique. C'était la grande tentation à Athènes à l'époque. Et c'est toujours la grande tentation dans des régimes de décadence. La grande tentation aujourd'hui, c'est de dire ça va si mal. Faisons tout de suite une école politique. C'est nécessaire qu'il y ait quand même des hommes qui soient capables de gouverner le pays et qui comprennent ce que ça doit être. Vous voyez, je vois qu'il y a un déclin à ce point de vue-là. Et très facilement, on devient un peu stoïcien. Il faut faire ça. Alors, donc, si j'ai eu l'impression d'éreinter Platon, c'est sans doute que vous considérez que Platon était dans la vérité. Or, il est généralement admis que Saint Augustin s'est inspiré de Platon, mais il était rectifié par la foi. Ce n'est pas grand-chose. Regardez Platon dans un regard de Saint Augustin. C'est pas Platon. Que Saint Augustin soit servi de Platon parce que Saint Augustin avait une noblesse. Et la noblesse fait toujours penser vers Platon, la cause exemplaire. Et non, voilà, vous suis là. C'est évident qu'au point de vue cause exemplaire, Platon est extraordinaire et merveilleux. C'est lui qui a découvert la cause exemplaire avec toute la difficulté et tout le danger de la cause exemplaire. Alors, comment donc Saint Augustin a-t-il pu développer une pensée juste à partir d'une philosophie fausse? À cause de la foi. Mais on sait très bien, et c'est Saint Thomas constamment nous montre, que Saint Augustin très souvent reste à mi-chemin. C'est le traité de la très sainte Trinité de Platon et celui de Thomas d'Aquin qui nous fait le mieux saisir toute la différence entre Thomas d'Aquin et Augustin. Mais là, je suis au sommet. Et c'est là qu'il faut regarder. C'est pour ça que les étudiants arrivent pour le traité de la très sainte Trinité cette année-ci. Je leur ai encore dit avant de recevoir le petit papier, qu'il était nécessaire aujourd'hui pour un étudiant qui regarde le traité de la très sainte Trinité chez Saint Thomas de se référer tout le temps à Saint Augustin et de voir toutes les différences qu'il y a de la vision théologique d'un Saint Augustin et d'un Saint Thomas. Là, on voit l'utilisation de Platon et l'utilisation d'Aristote. Platon reste au niveau de la vie. Alors, un très beau traité de la très sainte Trinité. Mais, ça ne va pas jusqu'au bout. Alors, Saint Augustin, comme Platon pour, je suis persuadé que Platon pour Aristote a été quelqu'un qui lui a permis de découvrir la disposition. Platon fait entrer dans quelque chose de plus loin que Platon. Il est merveilleux pour ça, comme l'art. L'art dispose notre intelligence vers la vérité, mais n'atteint pas la vérité plénière en elle-même. C'est toujours la vérité par rapport à moi. à ce point de vue-là, c'est très intéressant. Ce n'est pas absolu. Mais toute la différence qu'il y a entre l'art et la sagesse, c'est le passage entre les deux. Alors, si j'ai eu l'impression d'éreinter Platon, ce n'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est d'essayer de voir pourquoi Aristote a quitté Platon. Pourquoi Aristote, on a cherché, hein, n'a jamais accepté les idées en soi. Parce que, justement, tout l'édifice de Platon repose sur cette intuition des idées en soi. Des idées. Ces 20 ans, Aristote réfléchissait sur la différence de ce que disait Platon et ce que... Et je crois que Parménide, à ce point de vue-là, est très significatif. Le jeune Aristote. Donc, vous voyez, surtout ne croyez pas que je veux éreinter Platon. Je l'aime beaucoup. Parce que c'est un homme, un philosophe merveilleux. Il a montré à Aristote que la théoria était ce qu'il y avait de plus de grand. Il a montré à sa façon, mais il a montré. Et là, Aristote a gardé la théoria, la contemplation, comme le terme. Mais c'est par deux voies tout à fait différentes. Et ces deux voies sont différentes dès le point de départ. Pour Aristote, c'est l'expérience. Platon, ce sont les idées en soi. Je voudrais vous interroger sur notre pape comme phénoménologue. Il a enseigné la phénoménologie. Il a même écrit un livre sur le sujet. Pouvons-nous dire que l'Esprit Saint a choisi un phénoménologue comme pape? Non, sûrement pas. C'est pas en tant que phénoménologue qu'il a été choisi comme pape. Mais confusion entre le chrétien et le philosophe. Attendez l'encyclique, puisqu'elle paraît aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'elle est livrée. Personnellement, maintenez à travers tout votre métaphysique d'Aristote et préparez des frères qui soient capables d'enseigner la philosophie d'Aristote. Le plus grand péril actuel, c'est qu'on a quitté ce réalisme. Bon, il m'a dit ça de vive voix, étant pape, puisque je l'ai connu même avant qu'il soit pape. Et à ce moment-là, il ne m'a pas donné d'ordre. Tandis qu'après, il m'a donné un ordre en tant que pape. Donc, il n'a pas été élu pape parce qu'il est féminologue. Sûrement pas. Ça, je peux vous l'affirmer. Il m'a dit lui-même, j'ai un très grand regret dans ma vie. C'est de ne pas avoir eu des cours sur la philosophie première et la métaphysique. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, faites-le, parce que c'est ce qui manque. Il voit d'autant plus ce qui manque à la philosophie moderne qu'il a été plongé dedans. Alors ça, je peux dire qu'au point de vue de l'économie divine, c'est peut-être pour cela que l'Esprit Saint l'a choisi. Parce que quand on s'aperçoit d'un manque, on désire que les autres puissent avoir quelque chose de plus vrai. C'est vrai, il a été formé par la philologie. C'est très vrai. J'ai entendu à Fribourg un cours du cardinal, il n'était pas encore pape. Parce que c'est rare qu'un pape enseigne la métaphysique pour éviter les confusions, tandis qu'un cardinal peut faire un cours sur la fémologie. Edith Stein n'a pas été sanctifiée parce qu'elle était féminin. Elle a dépassé Lucerne. Elle est revenue à Saint-Thomas. C'est intéressant, tu restes à ce point de vue-là. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir de la philosophie dans l'Église? Attendez l'encyclique. C'est très bien. Et lisez-la. Pas seulement au réfectoire. Lisez-la personnellement, la plume à la main. Je crois que c'est très important, ça. Est-ce que cela nous encourage à chercher la vérité plutôt que la métaphysique aristotélicienne? Tiens. Saint-Père ne parle pas de la métaphysique aristotélicienne. Il parle de la sagesse. La philosophie sagesse, celle qui atteint le terme, c'est-à-dire celle qui nous permet d'atteindre l'existence de l'être premier, que les traditions religieuses appellent Dieu. C'est ça la sagesse. C'est pas Aristote. On aime Aristote parce qu'il nous aide à dépasser le platonisme. C'est pas de commande, c'est même très difficile de dépasser le platonisme et d'arriver à la saisie du toon et on. Voilà ce qu'Aristote aboutit. La philosophie première regarde toon, quod est, ce qui est. Pas l'étant, ce qui est, en tant qu'il est. Et c'est ça que vous devez réfléchir, parce que c'est ça le point de vue très important pour Aristote, la philosophie première. Ce qu'on appelle métaphysique, ce qu'Aristote n'a jamais dit. C'est pour ça que ça ne m'inquiète pas quand on parle de l'enterrement de première classe de la métaphysique. À la rigueur, très bien. C'est la philosophie première. Et Husserl reprend le terme de philosophie première, ce qui est aristotélicien. Alors il veut être plus pur comme aristotélicien que Thomas d'Aquin. Le toon est on. Alors, quod, si. en tant qu'aidant. Parce que traduire, voyez, le quad sit, le toon et on, comme étant, c'est faire passer avant le mode grammatical, le participe, plutôt que la signification. Fondamentale. La métaphysique a eu son temps, c'est terminé. La métaphysique d'Aristote reste sur l'étang. Or, je crois que si on regarde attentivement Aristote, là, ce serait la philosophie de la parole. Le participe du verbe. Einein, c'est toi. C'est vrai, c'est on. Mais la signification demeure celle de l'être. Ce qui est en tant qu'il est. Et en tant que réduplique sur est. Et non pas étant, qui est le mode. C'est la manière d'être, l'étant. Je ne suis pas l'être, je suis un être. Participer, un être limité. Je suis mon être, il existe dans mon humanité, dans ma nature humaine. Je n'existe pas dans ma nature angélique. Je n'existe pas comme Dieu existe. J'existe dans cette modalité particulière qui est la nature humaine. Alors, je veux bien que exister dans la nature humaine, c'est un étang. Mais l'être que je saisis n'est pas cet étang humain. C'est plus profondément ce par quoi cet étang humain est. C'est pas la même chose. Alors, je continue. Qu'est-ce que ça nous dit donc la phénoménologie comme pape sur l'avenir de la philosophie dans l'Église? Alors, l'avenir de la philosophie dans l'Église, aujourd'hui, l'encyclique, ça tombe très bien. Cette question, elle est ad rem. Parce que le pape répond lui-même. C'est très rare que le pape répond au sujet de la métaphysique. Il veut une métaphysique réaliste. Est-ce que cela nous encourage à chercher la vérité plutôt que la métaphysique aristotélicienne? Pour nous, si nous nous servons de la métaphysique aristotélicienne, c'est non pas en philosophe, en historien. Mais c'est en philosophe qui cherche la vérité. Quand Aristote dit « Je préfère la vérité à Platon hein », cette parole-là n'a plus beaucoup. Puisque vous opposez, vous distinguez la métaphysique aristotélicienne à la recherche de la vérité, ce qu'Aristote lui-même a répondu. Jusqu'où il est allé comme question. Pourquoi? Pourquoi notre pape a-t-il désiré dépasser sa formation de Marc Scheller? Donc la théologie. Pourquoi a-t-il eu ce désir? Pourquoi a-t-il eu le désir de revenir à Dominica? Ça c'est explicite hein, chez lui. C'est parce qu'il a découvert dans Thomas d'Aquin quelqu'un qui cherche la vérité. On peut dire que Thomas d'Aquin a aimé Avicenne, a aimé Albert le Grand. Il a aimé plus la vérité. Il a dépassé Avicenne, il a dépassé Albert le Grand. Et pour le dépasser, il s'est servi. C'était son maître au plan philosophique. Mais Thomas d'Aquin n'est pas quelqu'un qui répète Aristote, pas du tout. Il s'en sert dans sa théologie. Et pour s'en servir, il faut le connaître très à fond. Autrement, on ne peut pas s'en servir. On peut se servir d'Aristote en théologie. Parce qu'Aristote cherche la vérité. Si Aristote ne cherchait pas la vérité, il cherchait son système, on ne pourrait pas s'en servir pour la théologie, c'est-à-dire le lien entre la foi qui adhère à la parole de Dieu, la foi qui adhère à la parole du Christ, qui est la vérité. Aristote n'est pas la vérité. Jésus seul est la vérité parce qu'il est Dieu. Et tous, nous cherchons la vérité. Je ne dis pas du tout, nous cherchons tous à être aristotéliciens. Non, pas du tout. On se sert d'Aristote. Et je ne suis pas historien d'Aristote. Ça me ferait perdre du temps. J'essaie de comprendre Aristote en philosophe. Le tout on et on. Ce qui est en tant qu'il est. Et je dis, je ne suis pas heideggerien, parce que heideggerien a ramené le tout on à l'étang. Ce qui n'est pas ce qu'Aristote a fait. Puisqu'il a réduplié sur le on. Et cette réduplication, la formalisation qu'il cherche dans ce qui est, c'est l'être qu'il cherche, et non pas à comprendre uniquement tel étant l'homme. C'est toute la différence qui existe entre la philosophie première et l'anthropologie. Dans l'anthropologie, on cherche à savoir ce qu'est l'homme, l'étant, homme, l'être. Dans cet étang, en métaphysique, en philosophie première, on cherche ce qui est, en tant qu'il est, pas en tant qu'il est homme, mais en tant qu'il est. Et donc on dépasse le point de vue de l'homme. C'est ça qui est étonnant. Et c'est ça que le pape ne cesse de nous rappeler. Ayant une philosophie qui dépasse l'homme et qui devient sagesse. Si je suis dans la phénoménologie jusqu'au bout, est-ce que je dépasse l'homme? Posez-vous la question. Est-ce que vous rejoignez ce qui est en tant qu'il est? Ou est-ce que vous demeurez dans ce qui est en tant qu'il est connu par le philosophe? En tant qu'il est connu. À la place de dire éon, en tant qu'il est, on dit en tant qu'il est atteint par l'homme, en tant qu'il est connu par l'homme. Donc, ce n'est pas l'être en tant qu'être, c'est l'être en tant qu'il est digéré, entre guillemets, en tant qu'il est connu, atteint par l'homme. peut regarder l'être en tant qu'il est atteint par Dieu, en tant qu'il est atteint par l'homme. Et c'est ça qui est tout à fait propre à l'intelligence. C'est que l'intelligence est capable de s'auto-critiquer et de voir que le mode par lequel l'intelligence atteint ce qui est à cette mesure, je n'ai plus envie qu'il soit mon ami. Je le critique parce qu'il n'est pas conforme à la mesure de mon amour. Mais c'est capital pour nous de dépasser la phénoménologie. La phénoménologie pour nous est l'analogue à Platon pour Aristote. C'est ça qui est très intéressant. Elle dispose, c'est très vrai, elle dispose. Elle a été le retour et la voie qui conduit à une métaphysique. Mais elle n'est pas une métaphysique, parce qu'elle reste à l'homme. Alors le Saint-Père insiste, une philosophie sagesse. Alors une philosophie sagesse, c'est celle qui atteint l'être premier, qui atteint le Créateur. Une philosophie qui n'atteint que l'homme n'est pas sagesse. Et si vous êtes attentif à l'enseignement du pape, c'est constamment ce que le pape dit. L'homme demande de se dépasser. L'homme ne se connaît que dans son dépassement, comme homme. Et il reprendrait la parole de Socrate à la place de dire « Connais-toi toi-même, connais en toi ce par quoi tu peux te dépasser. Donc connais ta finalité. Tu ne te connais vraiment que tu connais ta finalité. Est-ce que la finalité de l'homme, c'est de se connaître, de regarder ce qu'il a assimilé, ce qu'il a connu? Non. La finalité de l'homme, c'est de pouvoir aller vers celui qui est sa source, son créateur, le créateur de son esprit, le créateur de ce qu'il y a en lui de plus grand, de plus beau. Vous voyez, c'est très vrai, là je suis tout à fait d'accord, c'est très vrai que la très grande difficulté que nous avons aujourd'hui pour entrer dans la philosophie première, c'est la phénoménologie. Parce que c'est très séduisant d'exalter l'homme comme homme. Mais la séduction de Platon était très différente. Parce que Platon l'idéal de Platon. Atteindre le bien en soi. Le bien en soi, c'est ou Dieu, ou ce que j'atteins de Dieu. Ce qui est très intéressant à regarder, c'est le dernier du cercle. La richesse de Louvain, c'est d'avoir les écrits du dernier Husserl. Husserl alors parle de Dieu. Et découvre Dieu. Mais il le découvre comme valeur suprême. Et ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que c'est que la valeur? Est-ce que la valeur c'est le tout anéon? Les derniers écrits du CERN, il y a eu dans la revue de Louvain, il y a 20 ans, je crois, à peu près, toute une série d'articles très intéressants sur le dernier du CERN. Le dernier du CERN, c'est donc cette voie de la phénoménologie. Où va-t-elle conduire? Alors, je ne sais pas comment ces écrits ont abouti à Louvain, mais c'est un fait. Et là, il regarde la valeur. Dieu, c'est la valeur suprême. Or, la valeur, qu'est-ce que c'est que la valeur? Regardez le Seine et le philosophe français des valeurs. C'est très intéressant dans les valeurs. Regardez aujourd'hui les hommes politiques qui veulent redresser la politique et qui mettent en pleine valeur les valeurs. Ça fait comprendre, mais c'est le toi-néon. Mettre en pleine valeur ce que c'est que la valeur. La valeur est toujours quelque chose de subjectif. Ça reste lié à l'anthropologie. Or, pour eux, la philosophie des valeurs, la politique des valeurs, veut remplacer la finalité. Parce que, étant dans une perspective idéaliste de la phénoménologie, ils désirent en sortir. Sortir de la phénoménologie en atteignant l'être sauvage. Ça aurait été intéressant de voir où l'être sauvage l'aurait conduit. Il est mort avant. Ça aurait été intéressant, ça. Parce que c'était vraiment le désir de dépasser l'être phénoménologue. Pensé par l'homme n'est pas l'être existant. Parce que l'être pensé par l'homme conduit à l'homme. Qu'en est la mesure? Qu'en est sa racine? Ne conduit pas à Dieu. Alors il conduit à la valeur. La grande valeur de l'homme, c'est de voir penser l'être. Penser l'être. C'est la valeur suprême. C'est que l'homme peut penser la bonté. Mais penser la bonté n'est pas la bonté. Mais toute la différence qu'il y a. ce n'est pas la vie, ce n'est pas la philosophie première. C'est peut-être, on pourrait dire, l'aspect de la noblesse de l'anthropologie. C'est découvrir une anthropologie digne, digne de l'homme. Mais ce n'est pas le dépassement de l'homme. Quand vous lisez ce que le Saint-Père dit sur l'homme, voyez son souci de montrer toujours que l'homme ne peut être connu que si on regarde le dépassement de l'homme. Et ça, c'est